Et si on parlait... Si on parlait un peu du poisson... Poisson dans une poêle ou une casserole avec un peu de graisse. Pour obtenir une croûte, on enduit le poisson d'un voile de farine. Garniture de beurre fondu, de persil haché et de morceaux de citron convient parfaitement. Autre suggestion, ajouter carottes, oignons ou échalotes finement coupées. Après la cuisson, ces ingrédients seront utilisés comme base d'une sauce. Le poisson est couvert d'un liquide aromatisé comme du bouillon. Il mijote jusqu'à ce qu'il soit complètement... Au lieu de ça, on se love. On fait semblant de s'aimer. On se ratatine dans sa casserole. On fond des sacs d'aspirateur, des langes pampers. Il procrée, se marie, réitère en un mot. Il sent le printemps.
Comme un avion sans air, j'ai chanté toute la nuit. Des sauts de création.
Chapitre 24. Le fonds d'aide à la création radiophonique, des sous pour les radios ou pour les créateurs.
Fin des années 80, la vieille idée d'instaurer un fonds d'aide alimenté par une taxe parafiscale ressurgit lors des tables rondes organisées par le ministre Valmy Féau. Toutes les parties intéressées en défendent le principe. Mais tandis que certains parlent de fonds de compensation pour aider les radios non commerciales comme telles, d'autres parlent plutôt de fonds d'aide à la création radiophonique ponctuelle. Témoin de cette différence d'accent, une déclaration de Henri Simons et Guy Stukens lors d'une conférence de presse du Parti écolo le 12 décembre 1990.
En matière de financement, pour ce qui concerne les radios d'expression, Écolo propose la création d'un fonds d'aide technique radiophonique de la communauté française, à côté du fonds de soutien à la production qui existe déjà. Ces deux fonds doivent être alimentés par une taxe sur la publicité des radios commerciales.
Note de l'ALO du 19 janvier 1991.
Le fonds d'aide devrait financer des moyens, matériels et humains, de fonctionnement pour les radios associatives d'expression, des projets radiophoniques originaux, créations artistiques, fiction, éducation permanente, défense du consommateur, formation aux médias, magazines, etc. Le paiement à la SABAM des droits d'auteur. La SACD, en cas de production d'œuvres dramatiques destinées spécialement à la radiodiffusion.
La question est posée. Avec l'instauration du fonds d'aide, s'agit-il d'aider la création radiophonique d'origine hors RTBN ou s'agit-il d'aider les radios non commerciales ?
Guy Stukens, Radios Alternatives, membre du bureau de l'ALO.
Ce débat n'a pas vraiment eu lieu. On a effectivement tenté d'énumérer les choses qui seraient intéressantes de faire avec de l'argent. Et puis ça a coupé, ce qui a coupé court à ce débat-là, c'était la réflexion d'un des membres de la discussion en disant « Essayons d'abord d'avoir l'argent, on trouvera bien un moyen de dépenser ensuite. » Donc le débat était biaisé à ce niveau-là, selon moi. Mais ce débat n'est pas différent que de celui sur les cahiers de charges pour les radios que nous réclamons depuis des années. Et où on n'est toujours pas. Donc... Dans notre idée, en tout cas, il semblait évident qu'une série d'initiatives pouvait être subventionnée, qu'on pouvait avoir un subside éventuel pour faire quelque chose en fonction d'un cahier des charges, mais en étant prudent pour ne pas avoir une mainmise du politique ou du pouvoir public sur nos radios. Donc, en gardant suffisamment de distance et en étant suffisamment clair au départ sur l'indépendance de nos médias, Donc c'était pas un débat facile, hein, mais on n'a pas abouti dans ce débat-là. Mais l'idée, c'était de faire plus que de la production, ça c'est clair. Mais pour autant que moi je me souvienne, en tout cas, l'idée c'était surtout de faire de la production et aussi tout ce qui était autour de la production, donc la diffusion la plus large possible, l'archivage éventuellement.
Mais en défendant avec Henri Simon et Écolo l'ouverture d'un deuxième fonds, appelé technique celui-là, pour aider les radios, Guy Stukens devait être conscient que l'aide ministérielle à la production et son héritière, le fonds d'aide, était autre chose que le fonds de soutien à la française.
Ouais, je crois qu'il faut distinguer deux choses. Il y a d'une part la position de la LOE qui est de ne... Enfin, la position des radios de la LOE qui était ne prenons pas de subsides de fonctionnement pour garder notre indépendance. Parce qu'une radio qui dépendrait uniquement des subsides, bah, le jour où le pouvoir public n'a plus envie de l'entendre, on coupe les subsides et la radio n'existe plus. Il y a cet aspect-là qui était la position reprise par la LOE.
Guy Stukens oublie que cette position était celle d'Air Libre et non la position de l'ALO, qui en principe répercutait des options différentes, comme celle de Panic, qui défendait, pour ce qui la concerne en tout cas, le principe d'une subsidiation structurelle.
Autre chose, c'est un parti politique qui peut avoir des idées différentes. Et donc, ça dépend évidemment de sur quelle casquette on parle. Et donc, quand je dis qu'un certain nombre de gens portaient différentes casquettes, c'était aussi compris moi.
Frédéric Jung a-t-il des souvenirs plus précis ?
Je n'ai pas de souvenir précis de l'existence d'un dispositif structuré d'aide à la création radiophonique ou sonore avant le fond. Ce qui est certain, c'est que avec l'aide d'Henri Simons, lorsqu'il s'est agi de négocier la réforme du décret sur l'audiovisuel, nous avons pu préparer un amendement qui a été âprement négocié par Henri Simons et Boris Libois, qui était son attaché parlementaire à l'époque, pour obtenir donc la mise en place d'un fonds de soutien à la création radiophonique alimenté par deux sources. La première source était une ponction sur les recettes publicitaires qui allaient être conférées à la RTBF, ce qui date bien, je dirais, qu'on parle bien de 91 et non pas d'avant. Et d'autre part, les ressources publicitaires des réseaux privés qui se dessinaient déjà à l'époque. Ça a été difficile à obtenir parce que c'était notamment la mise en place d'un mécanisme de ponction sur les flux publicitaires. Et donc c'était assez révolutionnaire à l'époque comme principe. Et ça pouvait inquiéter les télévisions notamment et RTL de voir se mettre en place un dispositif de ponction sur les flux publicitaires. Donc voilà dans mon souvenir, dire par ailleurs que moi-même, les auteurs de l'époque des comités belges de la SACD, de la SCAM de l'époque, Henri Simons, Boris Libois ou d'autres en seraient les seuls à pouvoir en revendiquer la paternité, non bien sûr. Il y avait à l'époque un fort mouvement associatif en faveur de la création radiophonique et de la création radiophonique indépendante et associative. Hein, je pense que, on y reviendra peut-être, si le fond est incontestablement, à mon sens, dans la formulation des textes, dans les motivations des parlementaires, un fonds d'aide à la création et non pas un fonds d'aide aux radios associatives, c'était quand même une façon pour les parlementaires de prendre en compte l'existence d'un secteur indépendant.
Article 26 bis du décret du 17 juillet sur l'audiovisuel tel que modifié par le décret du 19 juillet 1991.
Il est créé un fonds d'aide à la création radiophonique alimenté par la contribution de la radio-télévision belge de la communauté française, RTBF, et des radios privées autorisées à insérer de la publicité commerciale dans leurs programmes sonores, selon les modalités fixées par l'exécutif.
Arrêté de l'exécutif de la communauté française du 18 décembre 1991, fixant les modalités relatives au fonds d'aide à la création radiophonique. Article 2.
Après avis de la commission, le ministre ayant l'audiovisuel dans ses compétences désigne les projets d'émissions radiophoniques qui ont accès au fonds. Les projets d'émissions radiophoniques sont produits par des radios privées ou des producteurs indépendants.
Le producteur indépendant est défini comme une personne morale produisant des programmes radiophoniques destinés à être diffusés par des radios privées.
Article 3.
Les projets d'émissions radiophoniques, subsidiés par le ministre ayant l'audiovisuel dans ses compétences, doivent présenter un caractère de recherche, de création, d'adaptation littéraire ou dramatique, d'information spécialisée ou d'éducation permanente.
Le ministre Anselme désigne en 1992 les membres de la commission. Les fédérations de radio ne sont plus représentées comme telles. On y retrouve par contre un représentant de la RTBF, alors que l'arrêté ne le prévoit pas. Et ce n'est qu'en février 1994 que le premier appel d'offres est lancé. Les subventions à la création auront été interrompues pendant 2 ans.
Oui, donc au départ, au niveau des intentions, il y avait déjà chez vous une distinction claire entre aider la création radiophonique ou aider structurellement même les radios associatives, dès le départ.
Oui, parce qu'il nous semblait que les radios associatives devaient relever d'un dispositif similaire à celui qui vaut pour les télévisions locales et communautaires, qui était d'une prise en charge de subventions pour leur existence même et pour leur travail, d'information locale et d'éducation permanente. Donc l'intitulé même du dispositif indiquait qu'il ne s'agissait pas de soutenir des structures, mais bien d'aider à la création d'œuvres et de programmes, comme il existait une aide au cinéma et une aide, par exemple, à la littérature.
Est-ce que tu as l'impression que le fonds d'aide a été créé pour les radios associatives? Parce que dès le point de départ, ce n'est pas comme ça que c'est inscrit dans les décrets. Il laisse sa porte ouverte pour des financements, par exemple, de producteurs indépendants, comme on dit maintenant.
Oui. Avec les dérives que ça peut faire, on a eu toute une série de gens qui étaient très intéressés, des pré-pensionnés de la RTBF qui se disaient « mais je créerais bien une radio financée par le fonds d'aide qui s'adresserait à tel type de public, le troisième âge ou je ne sais pas quoi. »
Gérard Vallet, donc.
J'avais oublié son nom. Hein? Donc, je ne peux plus faire ce que je veux. Enfin, l'émission que j'aimais bien faire sur la RTB, je la fais autrement, financée de ce fonds-là. Tout le fond, il serait passé. Hein. Ça, c'est une possibilité. Il y a d'autres gens aussi, voyant à une certaine époque la diminution des budgets de création à la RTBF, qui se sont reconvertis, qui ont créé une série d'associations pour faire finalement des choses très intéressantes. Hein. Il y a des gens qui sont des prix Gilson là-dedans, donc ce n'est pas négligeable. Et donc, pour faire en dehors de la RTBF des choses avec de l'argent qu'ils ne recevaient plus à la RTBF. Éventuellement pour après revendre la chose à la RTBF, qui était bien contente de pouvoir acheter à bas prix ce qu'elle n'était plus capable de financer elle-même. Donc, ça me semble être quelque part une dérive, je ne sais pas si c'était le nom.
L'inquiétude était, et reste d'ailleurs aujourd'hui, que la RTBF s'y impose comme partenaire indispensable et donc finisse par guider tous les choix de programmation et de production. Et donc, il a été établi que d'emblée, il fallait une diffusion primaire, une première diffusion sur les antennes d'une radio indépendante, privée, associative ou commerciale, puisque les réseaux commerciaux devaient contribuer eux aussi. Rien n'était dit sur les diffusions ultérieures, d'ailleurs. Une deuxième, une troisième diffusion pouvait se retrouver. Ça a toujours été admis sur les antennes de la RTB. Ça ne posait pas de problème. Mais le porteur du projet n'a jamais été défini de façon limitée. D'où l'ouverture à des auteurs, producteurs indépendants.
Donc cet imaginaire, que j'ai d'ailleurs personnellement partagé, J'étais persuadé que ce fonds avait été, par différents relais, avait été créé effectivement pour remplacer une subsidiation des radios
qui n'existait pas et qui n'était pas prévu, bien que nous étions certains déjà à la demander à ce moment-là. Mmh.
Je pense que déjà les montants qui sont en jeu indiquent que ce n'était pas ça aussi.
L'enveloppe annuelle du fonds d'aide est d'environ 175 000 euros. Jusqu'aujourd'hui, mars 2002, seule la RTBF alimente le fonds, car les réseaux commerciaux n'ont pas versé le moindre cent sous le prétexte qu'ils ne sont pas reconnus officiellement.
Henri Ingberg, secrétaire général de la communauté française, rejoint lui l'opinion des radios associatives, à savoir que le fonds d'aide a été instauré pour elles.
On avait essayé de trouver un palliatif, qui était le fonds de création radiophonique, en disant, ok, on ne peut pas donner un subventionnement permanent, récurrent, renouvelé chaque année, mais on doit quand même essayer de donner un coup de main aux radios associatives qui font un travail de production original. Et puisque on ne prend pas l'option de les aider structurellement, on va les aider au coup par coup. On a ça dans d'autres secteurs culturels, on a ça en éducation permanente, on a ça dans le théâtre, on a ça uniquement en cinéma. Donc, on a mis à ce moment-là en place un fonds alimenté, parce que c'était une forme de solidarisation qu'on avait voulu établir. Et ça, c'était dans la situation d'il y a une dizaine d'années où on reconnaissait justement qu'il y avait des radios associatives, dire, voilà, la RTBF et les radios commerciales en réseau vont alimenter le fonds parce qu'il y a des radios qui, elles, n'ont pas les moyens en recettes commerciales et qui doivent pouvoir continuer à faire un travail original.
Donc vous confirmez que ce qu'on appelait l'aide ministérielle à la production, qui est devenue alors le fonds d'aide à la création radiophonique, donc ce dispositif a été bel et bien créé pour aider les radios non commerciales.
Oui, pour les aider, mais ponctuellement.
Ponctuellement, oui, oui. Coup par coup. Mais donc non pas au prime abord, pour aider des producteurs indépendants.
Non, c'était lié essentiellement au fonctionnement des radios, parce qu'à l'époque, je dirais, les producteurs indépendants, ils n'existaient pas.
Frédéric Antoine.
Moi aussi, quand je suis arrivé au fond, pour moi, le contexte était clair. D'un côté, il y avait ceux qui faisaient de la publicité, ceux qui en allaient pomper de l'argent, et on le redistribuait à ceux qui n'en faisaient pas ou à peu près pas pour leur permettre de faire la production correcte et subsister. Bon. Mais à partir du moment où effectivement le fonds subsidie des produits, il subsidie pas justement une structure, quoi. Sauf dans un cas précis dont on pourra parler par la suite. La façon dont le problème a été résolu au départ, c'est qu'effectivement, les radios rentraient des projets pour leurs émissions et qu'à travers les projets rentrés pour les émissions, il y avait une subsidiation des radios.
Lors des carrefours de l'audiovisuel en 1993, réapparaît une nouvelle fois l'idée d'une subsidiation structurelle des radios associatives d'expression comme telle. Dans le rapport de synthèse, on recommande de réorienter l'utilisation des montants récoltés par le fonds d'aide vers le financement de radios socioculturelles plutôt que de financer des programmes ponctuels. Cette recommandation reste lettre morte.
Et que personne ne l'oublie.
T'es pas obligé d'avoir compris. Hein.